Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International, le groupe d'Évreux, qui est heureux de reprendre l'antenne pour sa dernière émission du mois de mars, puisqu'on est le mardi 28, hein, c'est ça, Renan ?
Tout à fait.
Et ce soir, avec moi, il y a Mina.
Bonsoir.
Il y a Renan.
Bonsoir.
Non. Il y a Claire-Lise qu'on attend, mais qui ne saurait tarder à arriver. La pauvre, c'est un peu compliqué quand on assume à la fois un travail à l'extérieur et les émissions de radio pour Amnesty. Donc voilà, elle ne va pas tarder à arriver. Et puis, il y a moi.
Il y a Didier, on est voilà. Très content d'avoir avec nous ce soir.
Ben oui, parce que j'ai eu des obligations personnelles, dirons-nous, qui font que j'étais un petit peu en dehors de l'action militante depuis 2 mois. Mais c'est avec plaisir que je retrouve tout le monde, à la fois du groupe d'Amnesty et les auditeurs et les auditrices de Principe Actif, bien sûr.
Bienvenue.
On vous rappelle qu'en dehors des émissions en direct, il y a bien sûr les podcasts à écouter, à réécouter sur le site de Principe Actif, dans la rubrique émission Amnesty. Donc www.principeactif.net. Et donc vous pouvez même laisser des commentaires si vous avez envie sur ce qui vous a inspiré dans les différentes nouvelles, les différents sujets qu'on a abordés pendant nos émissions. Ce soir, pour commencer l'émission, je vais vous parler, et Claire-Lise aussi, normalement, dès qu'elle sera arrivée, va aussi vous parler pour d'autres raisons des sujets qui se recoupent. On va vous parler d'un parti politique qui se présente aux élections présidentielles en France. Donc pas que Amnesty International prend parti pour ou contre des candidats. Ça, on ne le fait pas et on ne le fera jamais. C'est pas notre vocation. Mais il y a des valeurs, bien sûr, en termes de droits humains que l'on partage universellement. Et bah, quand effectivement des organisations politiques se différencient de ces valeurs-là, pour ne pas dire qu'elles les bafouent, on ne peut pas non plus rester silencieux, puisque ce serait parfaitement hypocrite et c'est parfaitement anormal de rester silencieux. Donc on n'appellera pas cette année davantage à voter pour qui que ce soit, mais on rappelle simplement un certain nombre de vérités par rapport aux gens qui se présentent, chacun après étant responsable de ses actes en tant qu'électeur. Donc le Front National, dont il est inutile de vous rappeler qui est la candidate, mais qui est évoqué dans... Alors je vais citer une presse qui n'est pas la presse d'Amnesty, qui n'est pas la Chronique. Je vous rappelle que la Chronique, c'est le mensuel d'Amnesty. Hein. Vous pouvez vous abonner toujours sur le site d'Amnesty. Mais là, ça vient d'une presse de Télérama, pour ne rien vous cacher, que j'ai reçue aujourd'hui, le Télérama de la semaine, et qui parle du Front National, avec une interview d'une historienne qui s'appelle Valérie Igounet, qui est spécialiste de l'extrême droite en France, et qui, comme toute universitaire, a fait des choses qui sont assez fouillées par rapport au sujet et qui est interviewée de façon... et qui a des commentaires qui sont assez intéressants dans cet article. Alors, j'ai sélectionné 2 passages qui, à mon avis, sont assez révélateurs et qui peuvent effectivement éclairer la lanterne d'un certain nombre de gens qui seraient tentés par le vote Front National. Voilà. La question que lui pose la journaliste du magazine, que raconte l'histoire des slogans du Front National ? Elle répond... Toujours la même histoire, justement. Celle d'un parti qui voudrait faire croire qu'il a changé, mais qui demeure, depuis sa création en 1972, vissé au même socle idéologique, illustré par 3 mots qui reviennent en boucle, nationalisme, xénophobie et insécurité. Les slogans, l'iconographie, ont bien sûr évolué. Ils ont été adoptés au contexte politique, avec talent souvent, car les communicants du Front National sont des as de la propagande, mais le fond reste le même. Alors, elle cite les slogans du Front National, « Les Français d'abord »,« Alto-racisme anti-français »,« Être français, ça se mérite »,« Immigration égale insécurité »,« Stop à la submersion migratoire ». Les années passent, Marine Le Pen a succédé à son père, mais sur des airs différents, elle chante toujours la même chanson. Et je suis frappé, après des années à travailler sur le terrain, de voir combien les militants et les électeurs du Front National ont intégré ces slogans, comment ceux-ci reviennent mot pour mot dans leur bouche, sans qu'ils en soient forcément conscients. Alors, citation aussi des militants du Front National. « On est chez nous, par exemple, ou les Français d'abord. C'est une grande réussite de ce parti d'avoir su, à ce point, insuffler son discours. » Ensuite, elle poursuit dans la même interview à la question suivante. « Souvent, en l'habillant, donc on parlait des slogans, souvent dans l'habillant pour le rendre plus acceptable. » Réponse. « Le Front National a toujours avancé masqué. Prenez la thématique anti-immigration, présente dès l'origine. Je pense à cette affiche fondatrice qui date de 1973, quelques semaines après la naissance du Front National. En lettres rouges imprimées sur papier blanc bon marché, elle programme « Halte au chômage, le travail aux Français ». Toute l'habileté est dans le choix de l'angle économique, inédit alors au sein de l'extrême droite française, pour imposer le combat contre l'immigration. Il s'agit de mettre en avant les idées à caractère social, apparemment dénommées de tout racisme, pour séduire les classes populaires et concurrencer la gauche. Le lien immigration-chômage va se confirmer d'année en année, avec notamment ce fameux slogan créé au printemps 1978, à l'occasion des élections législatives, et qui deviendra le slogan phare des années 80. 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Bien sûr, c'est toujours le Front National qui parle. On pourrait également prendre l'exemple de l'IVG, question sur laquelle le Front National a tergiversé. À l'époque, le parti était clairement contre le droit à l'avortement, pas seulement pour des raisons philosophiques, mais aussi parce qu'il l'associait à l'immigration. Si le taux de fécondité des femmes étrangères dépasse celui des Françaises, on risque d'assister à un remplacement progressif des Français par les immigrés. Ce qui donnait, dans une logique typiquement frontiste, un enfant français de moins, un immigré de plus. Aujourd'hui, alors que le vote féminin pour le FN a beaucoup augmenté, à la présidentielle de 2012, les femmes ont voté pour Marine Le Pen pratiquement autant que les hommes, le discours de Marine Le Pen, qui met en scène sa condition de femme française libre, a changé. Elle ne met plus le combat contre l'IVG en avant, mais il suffit de l'écouter pour constater que ce discours est toujours fondé sur la xénophobie. Ainsi, dans une tribune parue le 13 janvier 2016 sur le site de l'Opinion, après les agressions sexuelles dont étaient victimes des centaines de femmes dans la nuit de la Saint-Sylvestre en Allemagne, notamment à Cologne, elle cible ouvertement les réfugiés, donc c'est Marine Le Pen bien sûr, ces criminels qui méprisent ouvertement les femmes. À l'instar des préoccupations sociales, le féminisme est un instrument pour le FN, il camoufle les thématiques xénophobes du parti. Voilà. Petit commentaire par rapport à ces agressions sexuelles à Cologne. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités par rapport à ça, puisque un certain nombre de gens avaient été arrêtés et ont été jugés. Là, c'était fin 2016, en Allemagne, bien sûr. Et en fait, il s'avérait que parmi les gens qui ont été condamnés, et il y avait toute une série de gens, effectivement, mais il y avait uniquement deux migrants syriens qui ont été condamnés. Les autres agresseurs étaient des Allemands. Elle termine l'article, alors je ne vais pas tout vous lire bien sûr, mais elle termine cette interview en répondant à la question, donc c'est toujours Valérie Higounet qui parle, spécialiste du Front National. Pensez-vous que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République en mai prochain? Ça c'est la grande question à laquelle on ne peut pas penser. Alors elle répond, non, je ne le pense pas. Ses chances de gagner cette élection sont infimes, j'en suis convaincu. Certes, la dynamique électorale de Marine Le Pen et de son parti est indéniable. Les résultats des dernières élections européennes et régionales l'ont montré. Certes, ses électeurs sont fidèles et parmi les plus déterminés, à hauteur de 70%, à voter pour leur candidate. Certes, si l'on en croit les sondages, Marine Le Pen a de bonnes chances d'être présente au second tour. Mais pourquoi ne peut-elle pas gagner l'élection? D'abord parce que l'histoire récente montre que le Front National ne passe pas le cap des seconds tours. On l'a vu en particulier aux élections régionales. Ensuite, la part inconnue de l'abstention doit être prise en compte. Mais surtout parce que le Front National continue à faire peur. Aujourd'hui encore, 58% des Français, soit 11 points de plus qu'en 2013, voient dans le parti frontiste un danger pour la démocratie. Et petit commentaire personnel, c'est bien là le fond du problème et c'est bien là le sens de mon intervention. Le Front National est un danger pour la démocratie. L'enjeu de 2017, ce sont les législatives. Cela dit, il ne faudrait pas sous-estimer le risque à venir. La progression du Front National ne faiblit pas. Où en sera-t-il en 2022, à la prochaine présidentielle? La gauche mesure-t-elle sa responsabilité vis-à-vis de ses électeurs dont je parlais précédemment? Oui, je n'ai pas cité un passage où elle parlait effectivement d'interviews de gens qui votaient avant à gauche et qui votent maintenant Front National. Ils ont été patients, reprend-elle. Ils ont vécu dans l'espérance d'un changement. Certains nous ont parlé de 1981. C'était quoi, 1981, Renan? Qu'est-ce qui s'est passé en 1980 en France.
Et du mois de mai, tu parles ?
Oui, du mois de mai 80. Oui,
c'est,
tout à fait.
C'était l'élection de François Mitterrand.
Voilà, c'est la première fois où Mitterrand a été élu président de la République.
Je me rappelle, il y avait le champagne qui avait explosé.
Voilà.
Partons en France. Pour après, bon, je ne veux pas faire de politique.
Alors, donc, certains nous ont parlé de 1981, des valeurs humanistes, l'égalité, la fraternité, qu'ils revendiquent encore malgré leur fierté d'appartenir désormais à un parti en totale contradiction avec ces valeurs. Alors, commentaire de Valérie Igounet pour terminer. Qu'attend la gauche pour se remettre en question et éviter que le Front National ne devienne le dernier recours des plus démunis? Voilà. Donc, je voulais quand même vous en parler. Bon, si Claire-Lise, comme j'espère, nous rejoint, je sais qu'elle a préparé aussi pour un autre sujet un commentaire sur le Front National. Là, c'était par rapport aux migrants, si je ne m'abuse, qu'elle doit nous en parler. Mais bon, c'est quand même important. Là, on a une échéance électorale qui arrive. On sait que, voilà, de toute façon, il y a des grandes chances que Mme Marine Le Pen soit au second tour. Donc, il faut effectivement se positionner par rapport à ça, c'est sûr, en tant qu'électeur. Ce que je peux aussi dire aux électeurs et aux électrices qui nous écoutent, dont je doute fort quand même qu'une majorité d'entre eux soit influencée par les voix du Front National, mais sait-on jamais. Ce qui est important de faire en tant que citoyen, c'est que vous connaissez forcément dans votre entourage des gens qui prêtent une oreille de plus en plus attentive au discours frontiste. C'est d'essayer de leur expliquer que ce discours ne repose sur rien, que c'est un discours effectivement qui est dangereux, raciste, xénophobe, etc. etc. Et je vous renvoie aussi à une émission que j'avais fait il y a pas mal de mois, plus d'un an, sur ce que permettait, j'avais fait une petite extrapolation en géopolitique, sur ce que permettait l'arrivée au pouvoir de quelqu'un comme Marine Le Pen, si justement les mesures prises dans l'état d'urgence,
c'était une politique fiction,
voilà, étaient maintenues. Et ça laisse rêveur sur les conséquences qu'elle pourrait en tirer. Et l'état d'urgence, j'ai entendu récemment aux informations qu'il était question, un ministre avait dit qu'il soit supprimé prochainement, et que M. François Hollande a dit mais non, pour l'instant, on le garde.
Et on attend que le prochain gouvernement prenne la décision.
Voilà. Jamais Marine Le Pen arrivait à l'Élysée, avec ce que lui permet de faire l'état d'urgence, bonjour les dégâts. Je vous renvoie à ce petit élément de politique fiction. Qui encore une fois, n'était absolument pas inventé, mais simplement tiré des prérogatives que lui laisse l'état d'urgence. Donc il faut bien y penser. Et si vous connaissez des gens qui sont influencés ou qui pensent qu'il y a des choses intéressantes à voir, bien leur expliquer que le danger est complet et qu'il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Parce que de toute façon, effectivement, ça ne peut engager que des catastrophes pour tout ce qui va arriver après. Donc il faut rester à des valeurs de démocratie, de défense des droits individuels, de respect de l'autre, de dignité, tout ce que d'où on vous parle dans nos émissions à longueur d'année et qui ne sont absolument pas représentés, bien évidemment, par le Front National. Voilà, c'était la fin de ma présentation qui était un peu longue, hein. J'ai rattrapé 2 mois d'absence. Voilà.
Oui,
Il y a Claire-Lise qui nous rejoint, donc on est content. J'ai dit que tu allais arriver, Claire-Lise, tu vois. Voilà.
Tous les auditeurs sont courants maintenant.
Qu'on était conscient que tu avais des obligations professionnelles, mais que tu ne laissais pas tomber les émissions d'Amnesty pour autant. Donc voilà. Donc Claire-Lise est avec nous. Après, on avait dit, Ronan, que tu allais parler de vente d'armes, si je ne m'abuse, et de quelques bonnes nouvelles aussi.
Oui, parce que vente d'armes, je ne sais pas si les gens ils se rappellent, mais en 2015, on avait lancé, il y avait une pétition qui a été lancée par rapport au trafic d'armes. On avait demandé donc au président de la République de se positionner par rapport au Yémen. Par contre, le résultat, ce n'est pas terrible, quoi. Donc en 2015, une pétition appelant le président de la République à cesser le transfert d'armes de la France à la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Mais en mars 2017, l'Élysée a refusé de recevoir pour qu'on lui remette la pétition. En sachant qu'il y avait quand même eu 18 375 signatures qui avaient été faites. Donc on a demandé d'être reçu par l'Élysée et qu'ils ont refusé. Il y a une relance qui a été faite le 6 mars, une réponse de la présidence de la République faisant écho à nos préoccupations, mais pas à notre demande de rendez-vous. Or, les réponses qui nous ont apportées sont loin de lever nos inquiétudes. Ils rappellent que la France respecte les obligations du traité sur le commerce des armes et de la position commune du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations et technologies d'équipements militaires. Son argumentaire apparaît peu convaincant. Nous, ce qu'on demande déjà, c'est qu'ils nous reçoivent. Parce que nous déplorons, donc en tant qu'amnestie, que la réponse qui nous a été faite ne fasse pas figurer parmi les critères retenus pour octroyer ou refuser une licence d'exploitation, le risque de violation grave du droit international humanitaire. Or, au cours des 5 missions sur le terrain au Yémen, entre mai 2015 et novembre 2016, nous avons recueilli des informations indiquant que toutes les parties au conflit, tant la coalition menée par l'Arabie Saoudite que les Houthis et leurs alliés, avaient commis des violations graves du droit international humanitaire et relatif aux droits humains lors d'attaques terrestres et aériennes, dont certaines devraient faire l'objet d'enquêtes pour crimes de guerre. Au terme de la réponse qui nous a été faite, nous sommes également préoccupés par la mise en balance que semble faire la France, d'une part, entre les différents critères à l'exportation qu'elle doit prendre en compte pour son évaluation du risque et, d'autre part, le soutien qu'elle entend apporter à la lutte contre le terrorisme. En effet, le traité sur le commerce des armes, de même que la position commune de l'Union européenne, prévoit une évaluation approfondie des risques de l'exportation à l'exclusion de toute forme de considération. Au terme de cette évaluation, la France doit en tirer les conclusions et décider si l'exportation s'avère soit égale, soit trop dangereuse pour être autorisée. Mais il faut savoir aussi que l'Arabie Saoudite est comme le meilleur client de la France.
Oui.
Parce que la France a octroyé, et vous êtes bien assis, pour un peu plus de 16 milliards d'euros de licences pour la seule Arabie Saoudite en 2015. Et la France a livré à ce pays pour 900 millions d'euros d'équipements militaires la même année, dont 115 véhicules blindés ainsi que plus de 700 fusils de précision. Donc à aucun moment le gouvernement n'a indiqué que ces deux dernières années qu'ils avaient refusé, révoqué ou suspendu des autorisations d'exportation.
Laisserais-tu entendre, Renan, dans ce que tu dis, que le respect des droits humains et le respect de la signature de la France par rapport au traité sur les armes s'arrêterait devant les raisons du porte-monnaie?
L'argent, toujours l'argent.
Mais pour le problème, c'est qu'on a quand même des signatures. On veut rencontrer le président ou un de ses représentants. Pour l'instant, on est arrivé porte close.
Bah, c'est notre rôle, effectivement, de faire ça.
Tout à fait, on le fait, mais quelque part, c'est vrai que la France, je pense qu'il y a l'enjeu financier et c'est lamentable. C'est lamentable.
Oh, j'ai plus d'illusions, ça y est, t'as détruit tout ce qui
me restait. Non, mais c'était un petit peu mon coup de gueule de ce soir, étant donné que, quand même, le contrôle armes, c'était une action qu'on a faite il y a déjà quelques années.
Oui, bah ça a débouché sur le traité sur les armes.
Tout à fait, enfin, contre le traité sur les armes, on est content, tout le monde a signé, tout ça et tout, mais actuellement, il n'y a pas beaucoup.
On reste quand même un des plus grands exportateurs d'armes au monde, mais quand même.
Money.
Ah non, mais quand tu vois 16 milliards d'euros, je ne vois même pas ce que ça peut représenter, quoi. Donc, quelque part, c'est un choix que le gouvernement français il fait. Quoi.
Mais quand on a parlé aussi du traité sur les armes et de notre satisfaction quand il a été signé, on n'a jamais caché non plus que le plus dur restait à faire, c'est à savoir sa mise en application, de toute façon. Mmh. Et là-dessus, effectivement, pour l'instant, on n'en est qu'au tout début.
Surtout que là, on parle des armes donc vendues à l'Arabie Saoudite par rapport au Yémen, parce que c'est vrai qu'à la télé, tous les jours, on va nous parler des conflits un petit peu partout, mais c'est vrai que le Yémen, je trouve qu'on
en parle très peu.
On n'en parle même pas du tout, je dirais.
Voilà, c'est le commentaire que je voulais faire aussi en t'entendant, c'est que le conflit au Yémen Enfin, disons que oui, enfin, il y a des crimes de guerre, il y a au moins des crimes de guerre, c'est sûr, et que c'est un conflit dont on parle très peu, effectivement. On en est à plusieurs milliers de morts, tu avais un chiffre, je ne sais plus dans ton commentaire. Enfin, oui, je crois qu'on en est à plus de 10 000 morts, un truc comme ça. Il faut savoir aussi que l'Arabie Saoudite, par exemple, a bombardé des écoles et des hôpitaux aussi, là, ça rappelle ce qui se passe dans d'autres pays. Et que de toute façon, j'entendais l'autre jour quand même, parce que les médias en parlent un peu, c'était sur France Inter, je crois, pour nommer les radios concurrentes. Il y avait un dossier sur le Yémen et le journaliste en parlait en disant que si les choses continuaient comme ça, de toute façon, la population yéménite allait devoir émigrer pour fuir la guerre massivement. Donc il y aurait probablement des milliers de migrants.
J'ai des chiffres là, si tu veux.
Vas-y,
donne-moi tes chiffres. Tu parles de milliers. 18,8 millions de personnes au Yémen sont dépendantes de l'aide humanitaire et ont désespérément besoin de nourriture, d'eau, de carburant et d'abri pour survivre. Donc, ce qui veut dire que le niveau de la migration, c'est vrai que ça va faire pas mal. Il y a eu 4600 civils qui ont été tués.
4600
Plus de 8000.
Je crois que c'est plus que ça maintenant.
Oui, je pense.
Ouais. Tes chiffres sont peut-être pas à jour, mais bon, c'est pas grave de toute façon.
Et plus de 8000 blessés.
Et donc, ce journaliste disait que les migrations seraient de toute façon inévitables si on continuait comme ça et dans un horizon très proche. Et qu'après, il fallait pas se poser la question pourquoi les gens cherchaient à venir en Europe. Pour faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur Madame Marine Le Pen. Que voilà, que c'est complètement absurde de dire effectivement on va fermer les frontières. Bah oui, bien sûr, hein, t'as raison.
Mais là, j'aurai un coup de gueule aussi tout à l'heure par rapport à ça.
Bon. Mais il y a aussi Clarlis qui va vous parler du Front National. Et puis on va quand même pas tomber dans l'excès d'être obsédé par le Front National non plus.
Non, mais pour l'instant, j'ai quand même fait après. Je vais faire quelques petites bonnes nouvelles quand même.
Oui, tout à fait.
Parce ça va faire du bien au moral.
Ouais, tout, hein, à fait. Bah, tout à fait. Bah, les bonnes nouvelles, c'est par rapport, on ne a déjà pas parlé, ce qui était chez Amnesty, les actions urgentes.
Oui.
Donc, les actions urgentes, en fin de compte, c'est l'aide qu'on reçoit tous les 15 jours, 3 semaines. Donc, c'est des actions qui sont bien ciblées. Et ça marche.
Mais vas-y, donne-nous les résultats.
Et ça marche parce que tous les 3 mois, on a ce qui s'appelle la dépêche des actions urgentes, plutôt. Donc, au Bangladesh, Dilip Roy, un militant étudiant âgé de 22 ans, a été libéré sous caution après avoir passé plus de 2 mois en prison sans inculpation pour avoir critiqué le Premier ministre Rachel Hashimoto sur Facebook. Donc, il faut savoir qu'au Bangladesh, on critique quelqu'un sur Facebook, c'est la prison. Donc, grâce à une action urgente qu'on avait écrite, donc, il a été libéré. Et on reste encore pareil au Bangladesh, et cette fois-ci, c'est Shafiq Rehman, 81 ans, journaliste bangladais respecté, actuel rédacteur du chef du mensuel Mushakdil, et qui a été arrêté le 16 avril, a été libéré sous caution par la Cour suprême le 6 septembre. Donc le 6 septembre, ça fait un petit moment, mais c'est vrai qu'au niveau des actions urgentes, c'est tous les 3 mois que nous avons les résultats. Et donc il a passé 4 mois de détention sans inculpation.
Ouais. Voilà. C'est bien. T'en as pas une troisième ?
Oh, mais si,
je pourrais... Quelques bonnes nouvelles pour nous remonter le moral.
Allez, en Inde. Khurram Parvez, défenseur cachemiri des droits humains. Oh, j'ai toujours des trucs
contre. En fait, on te dit une note, c'est pour t'entendre dire les noms étrangers.
C'est ça.
Il faut regarder
les
journaux étrangers. C'est ça.
Non, on te comprend bien à la radio.
Regarder les journaux étrangers pour savoir bien prononcer. On ne fait pas ça assez.
Non, ah, mais oui. Actuellement, je regarde les journaux anglais, si tu veux.
Tu vois, bon, c'est bien déjà. Anglais. Allez, vas-y, ouais. Ronan.
Donc, alors, comment il s'appelait ? Je n'ai pas compris le nom.
Khurram Parvez. Ah. Défenseur caché.
Voilà, c'est là que tu peux.
Cachemiri.
Défenseur caché. Il était caché de quoi ?
De Cachemire. De
Cachemire. Ah, Cachemire, ah. Oui.
D'accord. Donc c'est Cachemiri.
Oui, bah oui, d'accord. Sans doute. Voilà. Oui, du Cachemire, voilà.
Voilà. Donc il se trouvait en détention administrative, a été libéré. Donc un tribunal a en effet déclaré sa détention arbitraire illégale en vertu de la loi relative à la sécurité publique de l'État. Voilà. Donc c'est aussi une bonne nouvelle.
Très bien.
Donc après ces bonnes nouvelles, soit on fait la pause musicale ou soit on fait Clarlis.
Bon, il y a Clarlis qui voulait vous parler, qui va vous reparler un peu du Front National aussi, pour ne pas changer. Mais bon, et après on fait la pause musicale.
Une petite voix douce, une petite voix féminine, ça fait.
Ouais, tu vas voir la petite voix douce. Hein. Donc je vais vous parler d'un article, enfin quelque chose qui a beaucoup défrayé la chronique la semaine dernière, qui est dans l'actualité. Donc c'est un élu du Front National en Isère, qui participait à un conseil municipal et qui a fait une proposition pour le moins...
tendancieuse.
Très tendancieuse.
Voilà.
Donc là, ce que je vais vous... J'ai un papier dans les mains. Donc c'est un article qui est issu de Libération suite à cette... Enfin, qui a écrit ce qui s'était passé. Mais il y a beaucoup d'articles... Enfin, il y a beaucoup de journaux, comme le Dauphiné Libéré, etc. Beaucoup de journaux qui ont dénoncé ce qui s'était fait. Donc, en fait, cette... ce conseil municipal est enregistré puisque le maire de cette commune de Fontaine, c'est un maire qui est du Parti communiste et qui a pris l'habitude depuis plusieurs années. Il est membre du PCF et il enregistre systématiquement tous les conseils municipaux depuis 2014. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission. Je vous redirai tout à l'heure parce que je ne vois plus exactement dans l'article où c'est. Donc, en fait, un élu du Front National propose de récupérer les dents en or des Roms. Mmh. Alors, voilà, ça fait penser quand même à d'autres...
Ça rappelle des choses.
Ça rappelle des choses. Et quand vous avez la marine en bleu, là, qui essaye d'avoir une très belle figure sur quand elle passe à la télévision et qu'elle essaye de dédiaboliser son parti... quand ils sont livrés à eux-mêmes et qu'ils se lâchent, par contre, les pensées de fond du Front National, elles sont restées les mêmes. Et il faut les dénoncer. Donc c'est chouette, c'est vraiment très chouette la liberté d'expression. Ça permet à tout le monde de donner le fond de sa pensée, même si la pensée en question est d'une bêtise crasse, même si elle est raciste. Si on reste dans les limites du cadre fixé par la loi, on pourra parler alors d'humour potache. Ça permet aussi parfois à certains élus du FN de se faire connaître du grand public.
Donc la semaine dernière, on découvrait Benoît Leuillet, c'est son nom, un ex-dirigeant identitaire, conseiller régional Front National en PACA, devenu une brebis galeuse, dixit Marie Le Pen, viré du parti d'extrême droite pour avoir nié la réalité de la Shoah. Aujourd'hui, on apprend l'existence de Franck Sinisi, donc conseiller municipal à Fontaine en Isère, qui a suggéré de retirer les dents en or des Roms pour qu'ils autofinancent leur logement. Pas de référence directe au Troisième Reich cette fois, même si l'écho de certaines pratiques nous revient à l'esprit. L'homme vient d'être rappelé à l'ordre par le Front National, à titre préventif. Nous sommes à la recherche de la vérité, dit un cadre du parti à l'Express, prévenant que s'il s'avère que Franck Sinisi a bien tenu de tels propos, alors il sera sanctionné en commission de discipline. Alors, Libération a décidé d'aider le Front National dans sa recherche de la vérité, parce que même si les propos de Franck Sinisi ont déjà été rapportés par le quotidien régional Dauphiné Libéré, il s'avère que l'on peut aussi donc les écouter in extenso sur le site du Parti communiste de la ville, donc de Fontaine, qui enregistrait systématiquement tous les conseils municipaux depuis 2014, au cas où. Donc, le 27 février, on y entend l'élu du Front National s'exprimer au sujet des gens du voyage, alors que Jean-Paul Trévérot, le maire, vient d'annoncer que sa ville était favorable à l'implication de la métropole aux côtés de l'État et du département dans leur hébergement. Donc, Sinisi, le représentant du Front National, répond alors ceci. Ils, les gens du voyage, nous coûtent assez cher. C'est vrai qu'il est plus judicieux de les parquer dans un endroit où peut-être ils vont payer un loyer, plutôt qu'ils détruisent des stades ou qu'ils viennent illégalement. Voilà où ça revient encore plus cher à la métropole. Et il enchaîne. Concernant les Roms, pareil, dans ce cas, pour les loger, je pense qu'il doit y avoir un autofinancement. Hein ? Il suffit, au niveau de la métropole, d'investir peut-être, de leur payer des dentistes. Alors, tout le monde dans le conseil municipal commence à s'échauffer un petit peu. Et il reprend, oui, je m'explique, de leur payer des dentistes, c'est-à-dire de leur mettre des dents en nickel, de récupérer leurs dents en or. Et je pense que juste ça, ça leur permet de se nourrir et de se loger. Donc, ce Sinisi, là, il se marre face à l'indignation générale qu'il suscite. Et il redit, moi, il me manque des dents parce que je n'ai pas encore les moyens de me les payer, justement. Moi, mais le roi des Roms, lui, il en a des dents en or. Il a tout en or jusqu'à la tirette de la chasse de ses WC.
Voilà. C'est très élégant.
Donc ça, c'était pendant un conseil municipal et un représentant du Front National. Et donc l'article de Libération se finit ainsi. La dédiabolisation du Front National voulue par Marine Le Pen a manifestement du mal à dépasser les plateaux TV.
Si je peux me permettre un petit commentaire sur ce que tu viens de dire,
oui.
Berlise.
Ça m'a mis en colère, ce truc.
Je comprends, parce que ça rappelle effectivement des choses qui sont quand même du sordide. Mais cette pratique-là au Front National, on la retrouve effectivement aussi dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, là, mais je n'en ai pas parlé, de Valérie Gounet, sur spécialiste du Front National, universitaire, et qui rappelait aussi que c'est toujours une démarche du parti, c'est-à-dire il y a l'aspect ripolliné, extérieur, comme quoi on est présentable, et derrière, il y a toujours des références à l'extrême droite pure et dure, parce que bien sûr, l'extrême droite pure et dure est toujours au Front National, et il sera toujours. C'est pour ça que ce ne sera jamais un parti comme les autres, et qu'effectivement, il faut faire des appels du pied à cette extrême droite pure et dure, en leur disant, mais si, bien sûr, on est toujours des vieux nostalgiques du nazisme, bien sûr, ça n'a pas changé, mais on ne va pas le dire, l'important, c'est que ça ne se sache pas. Voilà. Et si, ça se sait forcément, donc c'est impossible à cacher de façon complète. Et donc, ce que tu viens de dire là, c'est bien des relents qui vont dans le même sens. C'est comme les chambres à gaz de Le Pen, c'est comme tout ça, enfin, le détail de l'histoire et compagnie. Petit commentaire aussi sur ce que dit, Valérie Gounet, quand même, qui moi, m'a frappé tout à l'heure, je ne l'ai pas dit non plus, mais c'est que sur le nombre d'élus qu'il y a eu aux dernières élections municipales, où il y a quand même maintenant dans les conseils municipaux 1500 conseillers qui sont étiquetés Front National, c'est quand même énorme. Il y a, depuis 2014, il y en a un tiers qui ont démissionné parce qu'ils sont en désaccord avec leur parti. Donc même chez eux, on est loin de faire le côté ripolliné des choses et le côté présentable des élus est loin de faire l'unanimité. Il y a un certain nombre de gens qui, malgré tout, se rendent compte qu'ils ont foutu les pieds, pour parler simplement, dans un vaste merdier. Voilà.
Est-ce que, avant de faire la pause médicale, parce que j'ai pas fait le conducteur avec vous, vu que j'étais en retard, on peut parler de la pétition justement qui va un petit peu à l'encontre.
Bien sûr.
Voilà. Donc il y a une pétition sur le site d'Amnesty.
On va peut-être faire un vote.
On va faire un vote.
Parce que je vois Mino qui fait. Elle est...
Non, juste après la pause musicale.
De quoi ?
Je t'invite.
De quoi ?
À parler de la pétition.
Elle n'est pas d'accord ?
Juste après la pause musicale.
C'est vrai ?
Oui, il faut faire une pause pour
nos lecteurs. Oui, t'as raison, Mina.
auditeurs.
Bon, alors, on va pas censurer Clarisse, mais on va faire la pause musicale.
1, 2, 3, 4. And high at the break of dawn, a simple tune that you can hum along to. I remember there was a time when I used to sing for you. Do 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 do. I used to sing for you.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux pour sa dernière émission du mois de mars. Et on vient d'entendre Tracy Chapman qui a fait de nombreux concerts en soutien à Amnesty. Moi j'en ai vu un d'ailleurs, qui est un morceau qui s'appelait Sing for You. Voilà. Maintenant c'est Clarisse qui va reprendre son sujet, ou c'est Mina, je ne sais
non,
plus.
Non, c'est Clarisse.
Parce que si tu te rappelles bien,
merci
avant la
pour la petite pause musicale,
avant la pause
Clarisse.
Musicale, Kerlis voulait parler. Mina oui. a dit non, non, on fait une petite pause. C'est et Kerlis parle après.
Mais c'est pour ça que oui, mais comme c'est Mina, c'est ma copine.
C'est,
là.
Pour, c'est pour ça que ça m'a fait faire une erreur. Bon, alors c'est Kerlis.
Alors, je vais d'abord vous parler d'une pétition qui est en ligne donc, sur le site d'Amnesty International et qui s'adresse au futur président ou présidente de la République. En fait, la France fait face à des défis réels en matière de sécurité, d'accueil des réfugiés ou de crise économique. Mais au lieu d'y répondre de manière responsable, de nombreux responsables politiques adoptent pendant cette campagne électorale une rhétorique de la peur et du rejet de l'autre qui remet en cause les droits de tous et stigmatise des groupes entiers de la population. On a l'impression de se répéter un peu.
Mais oui, mais les élections ouais. approchent.
Donc le débat électoral en cours aura des incidences directes sur le respect et les garanties qui seront apportées à nos droits. Nous devons dès à présent adresser un message fort et clair à la personne qui occupera la présidence de la République française les 5 prochaines années. Le respect des droits humains de tous est la condition d'une société libre et juste dans laquelle chacun peut vivre en sécurité et dans le respect de sa dignité. Nous voulons une France qui protège les droits de tous et de toutes. Nous voulons une France terre d'accueil et de liberté. Et donc je vous engage à signer la pétition en ligne dont je vais vous lire le texte. Madame la Présidente, Monsieur le Président, les respects des droits humains de tous est la condition d'une société libre et juste, dans laquelle chacun peut vivre en sécurité et dans le respect de sa dignité. Ces dernières années, en France, des droits essentiels ont été remis en cause dans les discours de responsables politiques et dans la pratique des institutions. Des pouvoirs d'exception ont été mis en place au nom de la lutte antiterroriste. Certains groupes de la population ont été stigmatisés et les réfugiés ont été accueillis de façon indigne. Il est temps que cela cesse. Je veux une France terre d'accueil et de liberté. Vous en avez le devoir, le pouvoir et la responsabilité. Dès lors, je vous engage solennellement à lutter avec force contre les discriminations dont sont victimes des groupes entiers de la population sous prétexte de leur origine ou de leur religion. Mettre en place une politique d'accueil des réfugiés respectueuse de leur dignité. Combattre les menaces à notre sécurité avec nos meilleures armes, celles de l'État de droit. Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Bon, vu le contexte, je préférerais dire Monsieur le Président.
C'est clair.
Voilà.
Et pourtant, on n'est pas sexiste. Hein.
Voilà, mais donc ouais, je vous engage à signer la pétition en ligne.
C'est vrai que le côté féminin, l'homme dérange un petit peu.
Ouais.
Ok, bah écoute, on le fera tous si ce n'est pas fait.
Donc là, c'était la pétition.
Et poursuivre.
Et maintenant, c'est Mina qui va vous parler de toute autre chose.
Et non, parce que c'est ma copine, alors je lui redonne la parole.
Oh, ben elle vous me arrêtez fait les filles. Un dossier. Vous arrêtez les
alors
filles,
moi, je propose, Didier, je propose qu'on va boire un coup tous les deux.
Ouais, on va laisser finir l'émission.
Voilà.
Donc, je suis désolée, j'étais pas là quand on a fait le conducteur.
Non, t'inquiète pas.
Et on s'amuse à le chambouler, alors ça... Oui. Voilà. Je voulais vous parler
d'un... Ah, parce que c'est vrai, en plus.
Bah, mais oui.
Je croyais que c'était une blague.
Non, c'est pas une blague. Je vais vous parler d'un travail qui a été fait, d'un travail qui a été fait autour de la préfecture de Toulouse. Alors, c'est un travail qui a été un observatoire qui a été mis en place sur l'accueil des étrangers à la préfecture de Toulouse et qui a rendu son public son rapport. Donc, ce rapport, il a pu être fait parce qu'il y a une quarantaine d'adhérents. De la LD, de la Ligue des droits de l'homme de Toulouse et de Colomiers, des représentants d'Amnesty International et des représentants de Réseau d'éducation sans frontières du département 31 et d'autres associations partenaires en lien avec des sociologues de l'université Jean Jaurès et du CNRS qui ont interrogé pendant 6 mois les personnes qui faisaient la queue à la préfecture de Toulouse. Cet observatoire, donc, ont été enrichis des témoignages de syndicalistes, d'avocats, de travailleurs sociaux et de travailleurs sociales. Ce travail démontre comment, à l'opposé des principes du service public et des engagements pris par la préfecture dans le label Calipref 2, il y a maltraitance et mépris généralisé des étrangers accueillis. Et donc, je prends cet observatoire pour exemple parce que je vous parle souvent de ce qui se passe à la préfecture d'Évreux. Mais malheureusement, ça s'étend à de très nombreuses préfectures en France. Là, on a un rapport écrit et qui n'a pas été fait à la légère. Ce sont des faits avérés. malheureusement, qui ressemble beaucoup à ce qui se passe à Évreux, à ce qui se passe dans d'autres préfectures. Il y a un traitement inégalitaire et aléatoire des dossiers, des pratiques sans déontologie ni éthique, une sous-formation du personnel d'accueil, des demandes abusives de pièces, des rendez-vous impossibles à prendre ou reportés à plus de 12 mois, une utilisation d'Internet qui reproduit un système élitiste et inégalitaire. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de demandeurs d'asile ou de réfugiés qui demandent un titre de séjour. Généralement, ils ne sont pas encore installés, ils n'ont pas encore le droit de travailler, ils n'ont pas forcément accès à Internet, ils n'ont pas d'ordinateur chez eux ni d'imprimante. On leur demande maintenant de photocopier en couleur, s'il vous plaît, les pièces qu'ils veulent fournir. Par exemple, un passeport, ça ne se photocopie plus en noir et blanc, ça doit se photocopier en couleur, etc. Il y a des retards et des procédures qui limitent le droit au travail et aux droits sociaux et un non-respect des droits aux soins des malades. Donc ce rapport complet, vous pouvez le télécharger en cliquant sur un site... le rapport de l'Observatoire de l'accueil des étrangers à la préfecture de Toulouse, les principes républicains bafoués par la préfecture de Toulouse, une maltraitance institutionnelle. Donc, chercher.
C'est un titre interminable.
C'est un titre interminable. Bon, chercher rapport LDH, préfecture
de Toulouse sur Google et vous allez l'avoir, oui, c'est ça.
Donc, cet observatoire a fait un travail. Moi, j'ai la synthèse de 4 pages là, donc je ne vais pas lire les 4 pages parce que je vois ma pauvre Mina,
non,
elle va
synthèse,
attendre.
C'est très bien.
Voilà. Mais en fait, nous sommes dans un état de droit et nous tenons à y rester. Et cet observatoire-là, il met en place, enfin, il a pu observer justement que le droit, en particulier le droit administratif ou le droit des étrangers, définit un certain nombre de principes. Les préfectures qui sont, il n'est pas inutile de le rappeler, des services publics, doivent suivre les règles liées à leur statut. Elles sont elles-mêmes dotées d'une charte, la charte Marianne, et d'un label, le label Calipref. Or, si quelques personnes se déclarent satisfaites et heureuses de l'accueil, beaucoup, 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 beaucoup trop de personnes décrivent autre chose. Et donc l'objectif de cet observatoire, ce n'est pas de dénoncer telle ou telle personne, telle ou telle catégorie d'employés, mais au contraire, d'œuvrer à maintenir un réel service public de qualité. Et pour ce faire, outre la longue liste des dysfonctionnements de la préfecture de Toulouse, déjà épinglée par d'autres associations, comme la CIMAD, au printemps 2016, on trouvera dans ce rapport complet des propositions d'amélioration qui, pour certaines, sont aisées à réaliser au niveau local, quand d'autres demandent des modifications législatives. Donc, il est très long, ce rapport, donc je ne vais pas tout vous lire, mais il y a quand même des abus qui sont dénoncés dans de nombreuses préfectures, qui sont des refus de guichet, parce qu'il y a des circulaires qui sont carrément... les préfets donnent des directives aux employés de la préfecture et ça devient de plus en plus dur et parfois contraire à la loi. Donc il y a parfois des refus de guichet. Il y a des gens, par exemple, normalement il ne devrait pas y avoir de quota. Et ben à Évreux, par exemple, le mercredi, c'est pour les titres de séjour santé. Et ben ils ont mis en place un quota, c'est-à-dire que si les gens arrivent. La préfecture, je ne sais plus, elle est ouverte de 8h30 à 11h30. Si les gens arrivent à 11h, ils n'ont pas pris un ticket d'abord, ils ne pourront pas être reçus. Mais certains viennent de loin, ils viennent de l'autre bout du département. En fait, ils ont mis un système de quotas. Il y a 15 tickets à l'accueil santé, par exemple, à la préfecture d'Évreux. Si vous avez le 6e ticket, vous ne serez pas pris. Et c'est pour tout pareil.
Et moi, le mot quota, c'est toujours un mot qui m'a complètement...
Voilà. Ils demandent de plus en plus de pièces administratives. Ils mettent en cause aussi des pièces qui sont données par les personnes réfugiées, immigrées. Par exemple, des actes de naissance. Souvent, ils vont, parce que ce sont des actes de naissance qui viennent d'autres pays, ils mettent en cause la validité de ces actes qui sont donnés. Alors, il peut parfois y avoir des faux, mais toutes les personnes... en situation d'immigration ne sont pas des faussaires et ne présentent pas des faux. Et seul, c'est quand même c'est un article de la loi, seul le gouvernement ou l'administration qui a produit un document peut dire qu'il est faux. c'est pas quelqu'un d'autre qui peut dire ce document est un faux. Mmh. Donc il y a des abus de guichet, il y a même des abus de langage envers les personnes qui attendent dans les préfectures. Tout ça, c'est dénoncé dans ce rapport et je vous invite à en prendre connaissance. Donc c'est la Ligue des droits de l'homme qui l'a diffusé avec le CNRS et j'arrive pas à lire l'autre sigle.
L-I-S-S-T, mais je sais pas ce que c'est.
C'est l'université de... dont je vous parlais tout à l'heure, de Toulouse.
C'est à Toulouse,
ouais, ouais, voilà. Toulouse. Et donc, c'est pour inverser nos regards, pour s'opposer à la maltraitance et au mépris des étrangers.
Merci, Claire-Lise.
Bien, c'est Mina qui a pris la parole. Vas-y,
oui, parce que Mina, on l'a pas beaucoup entendu encore.
Sur justement s'informer, avoir un autre regard, s'ouvrir l'esprit. J'ai deux livres à vous proposer ce soir dans la rubrique culturelle, La culture engagée. Alors, un premier roman, prix Goncourt 2016, de Gaël Fay, Petit Pays. C'est sur une adolescence au Burundi pendant la guerre civile, avant le génocide rwandais. Alors, je vous donne un résumé de Babelio. Au temps d'avant, avant tout ça, avant ce que je vais raconter, le reste, c'était le bonheur, la vie sans se l'expliquer. Si l'on me demandait comment ça va, je répondais toujours « ça va », du tac au tac. Le bonheur, ça t'évite de réfléchir. C'est par la suite que je me suis mis à considérer la question, à esquiver, à opiner vaguement du chef. D'ailleurs, tout le pays s'y était mis. Les gens ne répondaient plus que par « ça va un peu », parce que la vie ne pouvait plus aller complètement bien après tout ce qui nous était arrivé. Voilà l'histoire de Gabriel qui a une dizaine d'années au début des années 1990 et qui vit une enfance heureuse dans un confortable quartier de Kinanira à Bujumbura au Burundi avec ses parents et sa petite sœur Anna. Son père est un expatrié français, chef d'entreprise et sa mère est rwandaise. Comme tous les enfants, il est dans une bande de copains. Mais la réalité géopolitique va emporter ce bonheur innocent de l'enfance avec la guerre civile au Burundi qui précède le génocide des Tutsis au Rwanda. L'auteur souligne que le roman n'est pas autobiographique, mais il est bien sûr inspiré de sa propre expérience. C'est Gaël Fay, l'auteur, c'est un des chanteurs de Milk and Sugar, Milk Coffee and Sugar. Il a sorti un album Pili Pili, il est passé sur Thé au Café... samedi matin, je l'ai vu et voilà, à lire un très beau roman.
Donc tu travailles pas le samedi matin, toi.
Pas ce samedi-là, j'avais pris ma journée, excusez-moi madame, de pouvoir me reposer parce que j'avais des examens lundi matin. Sinon tu m'appelles s'il y a un souci.
Non mais tu sais que t'es pas obligée de te justifier.
Donc voilà, prix Goncourt 2016.
Mais il me semble qu'elle a pas travaillé aujourd'hui non plus, mais bon.
Le prix Goncourt 2016. Le vécu d'un adolescent pendant... la guerre.
Voilà. Au Rwanda.
Ouais. Même si Gaël Fay est d'une mère rwandaise et d'un père français et qu'il a vécu au Burundi et qu'il est venu dans une famille d'accueil à 13 ans en France, ce n'est pas du tout mot pour mot sa vie. Justement, il a narré, il a mélangé un peu tout. Mm-hmm. Parce que justement, la chroniqueuse lui demandait samedi matin, surtout au café... si c'était sa vie, il disait non, non, c'est pas du tout autobiographique. Ça y ressemble au niveau des lieux géographiques, mais non. Donc à lire, à lire, à lire, à lire. Petit pays de Gaël Fay.
Je vois que tu es enthousiaste.
Oui.
Bon.
Deuxième livre.
Est-ce que je peux faire juste un petit commentaire sur le, sur le Rwanda ? J'entendais, ça m'a fait penser à ça, j'entendais l'autre jour que le pape actuel, comment il s'appelle ? Je ne sais plus.
François.
Le pape François avait renouvelé les excuses de l'Église catholique pour les éventuelles complicités de comment dire, des autorités catholiques au Rwanda pour leur aide au génocide contre les Tutsis. Il avait renouvelé les excuses. Mais ça m'a laissé un petit peu songeur en disant je pense qu'il aurait été beaucoup plus constructif que l'Église agisse avant le génocide pour justement faire tout ce qu'elle pouvait pour qu'on ne tombe pas dans le génocide. Parce que des religieux y participent, c'est déjà assez insupportable. Et qu'on soit après, en tant que pape, amené à renouveler des excuses, je trouve ça, excusez-moi, un petit peu lamentable. Voilà. Ouais. Mais c'est un commentaire personnel.
Mais c'est quand même une petite avancée, parce qu'avant, les papes, les excuses, ils ne les faisaient pas.
Sans doute.
Mais bon.
T'as raison.
Mais je partage.
T'as raison de souligner ce côté-là aussi.
Je partage complètement ce que tu as dit.
Mais on a coupé la parole.
Non, c'était bien ton commentaire.
Mina.
C'est justement que ce qui est regrettable, c'est que c'est justement pas une fiction, mais qui parle de faits réels. Donc c'est pour ça que c'est bien ton commentaire. C'est bien d'intervenir.
Bon, vas-y.
Toujours dans la vie d'un adolescent, d'un groupe d'adolescents. Et là, c'est mon petit chouchou, c'est Arnaud Catherine. Il a sorti un roman jeunesse plus 16-18 ans, adolescent, adulte, À la place du cœur, saison 1. Donc, il va y avoir une suite. Alors, je vous lis le résumé de Babelio.
Tu
c'est
nous parleras
source,
de la suite.
Non, mais moi, les saisons, ça fait toujours rigoler.
Alors, l'histoire. Ce soir, Com a 17 ans et attend le déluge. Il ne sait qu'une chose. À la fin de l'année, il quittera sa ville natale pour rejoindre son frère aîné à Paris. Paris, la ville rêvée, ce soir, Com a 17 ans et attend aussi le miracle qui, à son grand étonnement, survient. Esther, sujet de tous ses fantasmes, se décide enfin à lui adresser plus de 3 mots, à le regarder droit dans les yeux et à laisser deviner un plus si affinité. Nous sommes le mardi 6 janvier 2015 et le monde de Com bascule. Le premier amour s'annonce et la perspective obsédante de la première fois. Sauf que le lendemain, c'est la France qui bascule à son tour. 2 terroristes forcent l'entrée du journal Charlie Hebdo et font 11 victimes. À la place du cœur, c'est ça. Une semaine, jour après jour et quasiment heure par heure, à vivre une passion sauvageonne et exaltante, mais une semaine également rivée sur les écrans, à tenter de mesurer l'horreur à l'œuvre, à tenter de ne pas confondre l'information en flux continu avec un thriller télé de plus. Comment l'amour, qui par définition postule que le monde peut bien s'écrouler, cohabite-t-il avec la mort en marche? Comment faire tenir ça dans un seul corps, dans une seule conscience? Comment respirer à fond le parfum de la fille qu'on aime et comprendre dans le même temps que le monde qui nous attend est à terre? Voilà. Magnifique roman.
Tu nous rappelles le titre?
À la place du cœur. Saison 1.
Saison 1, d'accord. On attend la saison 2, c'est ça?
Ouais, moi j'attends avec impatience la saison 2. Bon. Et j'étais vraiment avec Com.
Bon, Renan, t'as bien des choses à nous dire? Non?
Oh oui, je peux une petite bonne nouvelle.
Voilà.
Une petite bonne nouvelle, donc en fin de compte, je vais lire un petit témoignage. 3 ans après avoir quitté la Syrie, Alan et Gian ont enfin retrouvé leur famille en Allemagne. Alan et Gian, deux jeunes professeurs, ont fui la Syrie avec leur famille en été 2014. Commence alors un long périple rendu encore plus compliqué par le fait que Alain et Gian souffrent tous les deux de dystrophie musculaire et sont dans des fauteuils roulants. Les obstacles sur la route de l'exil étaient multiples. À la frontière de la Turquie, ils se sont fait tirer dessus par la police. Ils se rendent alors en Irak. Leur père a lui poursuivi le périple avec l'une de ses filles et tous deux ont fini par atteindre l'Allemagne. Pour Alan Guan et leur mère, qui sont restés en Irak, l'arrivée du groupe armé État islamique les pousse à nouveau à fuir. Ils tentent à nouveau de se rendre en Turquie, mais cette fois à travers des montagnes. Une fois en Turquie, ils payent des passeurs pour prendre un bateau gonflable vers la Grèce qui tombe en panne en plein milieu de la mer. C'était terrifiant, se souvient Alan. Chaque fois que je regardais autour de moi, je voyais des bébés et des enfants pleurer. Ma mère était sur le point de s'évanouir et à un moment, ma sœur m'a dit qu'elle ne pouvait plus continuer. Ils sont arrivés sur l'île le 12 mars, donc en Grèce, quelques jours avant l'entrée en vigueur de l'accord UE-Turquie, dont on a déjà...
L'accord inique, comme a dit Amnesty International.
Tout à fait, mais c'est un accord, justement, ça fait un an.
Oui, c'est l'anniversaire de cet accord.
Je sais bien, et j'ai même un sujet là-dessus, je pense qu'on a le même.
Bah oui.
Donc, je continue. Donc, les frontières des autres pays européens avaient été fermées suite à cet accord et leurs espoirs de retrouver leur père et leur sœur en Allemagne semblaient bien irréalisables. La famille était placée dans le camp de réfugiés de Ribzona. La vie dans ce camp situé sur une base militaire abandonnée en pleine forêt était très difficile. Le sort sablonneux illégal rendait tout déplacement particulièrement compliqué pour Alain et Gian. Et la nourriture servie était si mauvaise qu'une grande partie était jetée, ce qui attirait des sangliers. Augmenter le danger. Au vu des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école et perdaient leur temps dans le camp, Alain et Gian se sont mis à leur donner des cours. Donc, il y a eu quand même des milliers de messages de solidarité parce qu'au niveau d'Amnesty, donc a rencontré la famille donc c'était l'été dernier
et donc a été alertée de leur situation et activé les réseaux des militants à travers le monde pour qu'ils expriment leur solidarité avec la famille. Des milliers de messages, je vous dis bien, donc des milliers de messages ont été adressés, des dessins, des lettres et des cartes. Chaque message que je lis est mu. Je lis et mieux. Je suis tellement touché, exprime John, à la lecture des messages. Je remercie tout le monde pour leur soutien à notre quête pour vivre en paix. Donc déjà, c'est comme ça veut dire que les messages, ça fonctionne. Et donc, une nouvelle vie commence pour la famille en Allemagne. Il y a une quinzaine de jours, donc c'est récent ce que je vais dire, il y a une quinzaine de jours, la famille qui avait depuis été logée dans un hôtel a appris qu'un vol pour Munich les attendait et qui devait retourner à l'hôtel préparer leurs affaires. Quelques jours après, le 16 mars, donc c'est comme très très récent, ils ont retrouvé leur père et leur sœur dans un centre pour réfugiés près de Hanovre. Alain et Johan sont maintenant prêts à entamer une nouvelle vie en Allemagne. Ils ont déjà commencé à apprendre la langue et sont conscients des difficultés de vivre dans un autre pays. Mais ils savent aussi quelle chance ils ont et ils n'oublient pas tous ceux qui se morfondent toujours dans les camps en Grèce après un hiver impitoyable. J'espère qu'ils trouveront une solution pour des gens qui sont coincés dans les îles. Certains sont morts à cause de la neige il y a quelques semaines. C'est très dur pour eux. J'ai vu les photos des gens sur les îles et cela m'a fait mal de les voir dans les tentes sous la neige. Donc ça, c'est un témoignage d'Alan Gian. Donc on est comme contents qu'ils sont arrivés en Allemagne. Ils ont pu rejoindre et leur famille après un périple comme de 3 ans. Quoi.
Oui, bah pour eux, c'est un peu la fin d'un calvaire. Oui. De toute façon.
Quand même.
Et ça laisserait penser que la solution n'est pas de fermer les frontières, c'est ça?
On
tirer cette conclusion-là sur un plan tout à fait de juste relations humaines normales, ce n'est pas de fermer les frontières.
Et quelque part, je ne veux pas dire que c'est grâce à Amnesty tout ça, mais c'est vrai que le fait que Amnesty s'est intéressé de...
On y participe, c'est jamais grâce à...
On a participé, mais vu qu'ils se sont... C'est vrai que je pense que ça a dû pousser pour justement... ils arrivent en Allemagne quand même.
Ok. On avait quoi après? Parce que comme les filles, vous avez mis la panique dans le conducteur, on ne sait plus où on en est maintenant. Mina, il nous restait quoi, Mina?
L'année de la honte.
L'année de la honte?
Bah oui.
Non, mais on l'avait tous les deux, mais je pense que si on le fait maintenant...
Ça va être Mina qui va reprendre la parole.
En une minute, tu peux faire l'année de la honte en une minute?
Oh non, je ne peux pas, je reviendrai dans 15 jours.
Juste pour vous préciser que Gaël Faye, en fait, il est auteur, compositeur, interprète de rap. Je pense que je n'ai pas été claire. C'est pour ça que je vous ai parlé de son groupe Milk, Coffee and Sugar. Et...
Il me semble que tu as vu, et je ne sais plus dans quelle émission, le 5 matin.
Et le titre de son album, précisément, c'est Pili Pili sur un croissant au beurre.
Oh, c'est rigolo,
voilà.
Ça.
Voilà. Et Arnaud Catherine...
C'est sur la télévision dont tu parlais, c'est ça?
Non. C'est un écrivain qui est aussi très musical. Il a un projet qui s'appelle Frère Animal, de texte et de musique, avec Florent Marché. Voilà. Et comme ça, on pourra vous dire.
Bah, je pense qu'on peut se dire donc au mois prochain, qui est la date, Didier?
Ouais, bah, j'ai juste donné la date, voilà. Effectivement. La date,
Didier vous l'a donnée maintenant.
Le 11 avril.
La prochaine émission, c'est le 11 avril, 19h, sur l'antenne de Principe Actif. On va vous la redire juste après quand même. Et surtout qu'il y a notre ami Manu qui vient d'arriver pour l'émission qui suit.
Oui.
Et juste dire non pas un commentaire, mais juste un chiffre. Citer un chiffre quand même qui remet aussi des pendules à l'heure, parce que c'est important, et qui fait suite à ce qu'on a dit plusieurs fois dans le cours de l'émission. On parle toujours du nombre d'étrangers qui habitent en France. Ça, c'est tiré d'une autre presse, Le Monde Diplomatique, que je vous conseille aussi. Le numéro du mois que je viens de recevoir. Le nombre d'étrangers qui habitent en France, on en parle toujours, entre autres à l'extrême droite. Les dernières statistiques montrent que la France actuellement compte 2,8 millions d'étrangers non communautaires. Mais on ne parle jamais d'un autre chiffre qui est cité juste après. C'est le nombre de Français qui vivent à l'étranger. À l'heure actuelle, effectivement, le nombre de Français qui vivent à l'étranger, dont 37% vivent dans l'Union européenne, se montre entre 2 et 3 millions. Donc si on veut expulser les étrangers qui habitent en France, il faudrait peut-être que les pays étrangers expulsent les Français qui habitent chez eux, si on voulait être logique. Mais c'est marrant, ça, on n'en parle jamais.
J'ai jamais pensé à cette...
Bah oui.
Bon, moi, je pense que maintenant, on peut se dire au mois prochain.
On peut se dire au mois prochain?
Non, dans 15 jours.
Bah oui, au mois prochain. C'est le 11 avril. On vous rappelle, prochain direct, le 11 avril, 19h, 20h.
Allez, bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.